Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, toute l'équipe de la Route Inconnue vous souhaite une excellente année 2015. Nous espérons qu'elle vous sera favorable, mais pas au point de faire de vous des enfants pourri-gâtés. Nous vous souhaitons donc surtout une vie en poésie, au plus près des êtres et des choses, des musiques et des mots. Pour cette première édition de l'année, je vous propose une lecture in extenso de « Écrit la nuit » suivie de « Écrit d'amour » de Marie-Anne Bruck. Il s'agit du polder 163, coédité par la revue Des Charges, notre partenaire, et les éditions Gros Texte, portées à bout de bras par le poète, libraire, lecteur, éditeur Yves Artufel. Ensuite, vous pourrez écouter la chronique de Jacques Maud, directeur de publication de Des Charges, puis l'interview de la quinzaine, et c'est Jean-Claude Touzeil qui passe aujourd'hui sur le grill. Le chroniqueur de la Route Inconnue ne doit surtout pas nous faire oublier le poète que nous aimons pour sa malice et sa tendresse et son humour. Jean-Claude vient de faire paraître un recueil intitulé « Des choses qui arrivent ». C'est aux éditions du Chat qui tousse, des éditions animées par Franck Cottet que nous avions eu le plaisir d'interviewer, rappelez-vous, l'an dernier, au Salon de la Poésie de la Suze-sur-Sarthe. Après Jean-Claude Touzeil, Jean Antonini, notre grand spécialiste du haïku, continuera d'explorer les arcanes de ce genre poétique né au Japon au XVIIe siècle et qui n'en finit pas d'étonner le monde. Et puis pour finir, nous retrouverons Jean-Claude Touzeil, mais en qualité de chroniqueur cette fois-ci. Après quoi, bien, il sera grand temps pour moi de vous dire au revoir. What a dream I had, pressed in organdy, clothed in crinoline of smoky burgundy, softer than the rain. I wandered empty streets down past the shop display. I heard cathedral bells tripping down the alleyways as I walked on. And when you ran to me, your cheeks flushed with the night. We walked on frosted fields of juniper and lamplight. Kissed your honey hair with my grateful tears. Oh, I love you, girl. Oh, I love you. Un vrai petit chef-d'œuvre que ce « For Emily » de Simon Garfunkel. Comme promis, je vous invite à écouter la lecture in extenso du polder de Marie-Anne Bruck. Il vient de sortir, coédité par la revue Des Charges et les éditions Gros Texte. Que dire à propos de ce livre, sinon que tour à tour, il nous charme, nous angoisse, nous berce, nous donne à espérer. Poésie intimiste, comme le souligne son préfacier Denis Hamel, les mots de Marie-Anne Bruck, dit-il, dessinent avec parcimonie un univers domestique et végétal, évoquant plus les volutes d'une flûte traditionnelle ou l'art du haïku et de l'estampe japonaise que le blues rauque d'un Memphis mini. À l'heure où le grand public demande avant tout du pain et des jeux, cette poésie intimiste déploie avec obstination un art de vivre et de sentir qui oppose la douceur et la violence. On ne saurait mieux dire. Journal. 3 décembre 2012. J'étais seul et légère. Je n'écoutais pas le silence. La solitude épousait le méandre du temps. J'attendais le goutte à goutte d'un poème. Tout fuyait de la blancheur du sol à la pénombre du couloir. La table était sévère, le cendrier navré, mais les volets rêveurs. Un poème pouvait tomber du ciel. Pas de doute, j'étais seul. Las, 21 décembre 2012. La nuit m'affaiblissait. Rien ne chantait sous la lampe. Je me résumais à quelques gestes mesurés. L'aube viendrait comme une intruse. J'étais sans doute la même que la veille, à une nuance près. Il ne restait de la tristesse qu'une lassitude dans les os. L'amour était une vague histoire de nerfs. Il manquerait toujours quelque chose. Je n'avais rien à m'avouer. Idéaliste, 22 décembre 2012. Mille voix semblaient possibles. Je me cognais aux angles. Je cherchais l'avenir sous mes peurs. Je cherchais mon cœur dans un souvenir. Tout était dans ma tête. Tout aurait dû être au monde. Tu avais refermé le passé derrière moi. Sereine, 10 janvier 2013. Les oiseaux susurraient. La nuit était sans teint. Mon corps respirait doucement. La lampe rêvait de lumière. J'étais bercé par l'incertitude. Le silence méditait plus qu'il ne priait. Le bonheur pouvait surgir de toutes parts. La nuit me protégeait des mauvais rêves du monde. Inquiète, 12 janvier 2013. Les ténèbres avaient lesté le ciel. Je guettais un soubresaut du cœur, mais le silence ronronnait dans ma poitrine. La nuit était allongée dans le jardin. Les anciennes souffrances paraissaient étranges. J'avais étouffé des sentiments dans l'œuf. Je m'interrogeais sur le sens des regrets. Sans titre, 21 janvier 2013. La nuit hésitait entre silence et ténèbres. J'oscillais entre cœur et esprit. La solitude était lisse comme une plume. Le passé semblait une bien obscure énigme. Il fallait saisir le présent du bout du stylo. On pouvait écrire tout et son contraire sans jamais être dans le vrai. À cette heure-là, la nuit faisait miroir. Je regardais mon visage par la fenêtre. Soirée, 11 avril 2013, 22h. La maison était roue électrique. La nuit donnait du relief à la joie. C'était l'heure des grands éclats, des grands contrastes. La cigarette était chevelure au vent. Je n'avais pas mal aux souvenirs. J'aurais pu écrire une lettre d'amour sans rature. J'aurais pu écrire un mot de rupture sans déchirement. On pouvait s'estimer vivant. Je n'avais rien à voir avec la nuit. La nuit traînait derrière la porte. Il y avait la moiteur de la main sur la joue. J'avais repoussé l'amour au loin. Avec le café, on buvait un peu de la journée à venir. De l'amour, je n'avais gardé que le sentiment. Du sommeil passé, un papillonnement d'yeux. L'espoir renaissait du chaos des rêves. Les volets ouvraient sur l'avenir. Milieu de la nuit, 21 janvier 2013. La lampe ouvrait la nuit en deux. Des choses, belles ou terribles, se tramaient de par le monde. Les sièges vides face à moi me tenaient compagnie. Par des nuits comme celle-là, l'amour paraissait quelque peu surhumain. L'espérance supposait trop de patience, et le temps de la nuit était d'une extrême lenteur. Seul, on ne sentait ni sa force, ni sa faiblesse. 3 heures, sans date. Il battait doucement le pouls de la nuit. Le silence était un bleu feuillage. La maison restait digne. Je me savais fragile et redoutais la lumière. Certainement il y avait l'amour, et après. On aurait voulu que la beauté soit une fin en soi. On aurait voulu que la joie soit une promesse. On ne savait pas comment les choses s'amorcent ou se désamorcent. Mais le doute nous accordait chacune de ses danses avec douceur. Nuit intérieure, 2 mai 2013, 2 heures du matin. La route mugissait comme une bête. La nappe répétait toujours les mêmes fleurs. Les meubles alignaient sur les murs leurs spectres. J'avais senti le petit vent froid de la déception. Pourquoi rêvait-on toujours trop haut? Le temps qui passe était à la fois un baume et une flétrissure. En moi, il y avait du vide et des tremblements. Le silence couvrait la voix des absents. La cigarette enrubanait la nuit. Matin, 8 avril 2013. C'était un maigre amour nourri aux rêveries. C'était un blanc matin de porcelaine. On faisait grand usage de souvenirs pour amarrer le vague à l'âme. Les vieux rêves inassouvis pouvaient encore servir. Le soleil était invisible mais sous-jacent. C'était un strict amour dressé à l'absence. Écrit d'amour. Les feuilles de l'arbre éparpillaient la lumière en tous sens. L'homme que j'aimais était heureux sans moi. Le soleil semblait froid comme du métal. Un oiseau répétait sa leçon triste. L'homme que j'aimais disait me connaître trop bien. Les bruits de la rue inspiraient l'aventure, mais les élans du cœur restaient enfermés dans la poitrine. L'homme que j'aimais m'avait laissé à l'abandon. Surface, 10 juin 2013. On ne savait à quelle profondeur du cœur naîtrait le poème. Le ciel était un grand voile d'argent. Je regrettais les blessures vives de la jeunesse. Les yeux du chat interrogeaient la conscience. L'amour ne m'avait pas désarmé. l'amour ressemblait parfois à une pénitence. Dans l'arbre, il y avait des tessons de ciel. La solitude ne semblait guère préparée à la sagesse. Fin de printemps, 17 juin 2013. Le désir se changeait peu à peu en douleur. L'arbre en fleurs neigeotait sous le soleil. Dans l'épaisseur des feuillages s'engouffrait la tristesse. J'attendais qu'un sort contraire te ramène à moi. Mais nul destin assez cruel ne raviverait les liens passés. Les vols d'abeilles oscillaient dans la brise. On ne savait à quelle distance se trouvait le bonheur. Peut-être très proche, peut-être à des années-lumière. Stupeur, 26 juin 2013. Je n'étais pas certaine de comprendre ton silence. Plus j'écoutais, plus j'entendais mon sang fébrile. Le regard se perdait sur l'aube couleur de cendre. La maison inspirait une calme hébétude. Il y a bien longtemps, nous avions failli mourir ensemble. Nous avions failli nous comprendre sur l'essentiel. C'était contre moi que tu avais voulu survivre. L'arbre enchevêtrait l'ombre et la lumière. 20 juin 2013, 7 heures du matin. Je cherchais en ma mémoire tes yeux. L'orage nocturne avait rouillé les roses. Ton regard avait une fraîcheur de fleurs. L'orage nocturne avait réveillé des parfums, des échos. Dans mon souvenir, tu étais un homme énigmatique. La couleur du ciel était celle même du temps qui passe. Je te craignais, je craignais les maléfices de l'amour. Bien des choses troublantes étaient révélées par la pluie, par la nuit. 15 juin 2013, 8 heures du matin. Je cherchais le sortilège qui ferait revenir le passé. Cela se passait entre somnolence et lueur de l'aube. Le jardin était frais comme une grotte. Croyant ne rien faire, je m'apercevais que je t'attendais. Le vent dans les feuilles faisait un bruit de très fine pluie. Ton silence répétait l'instant de rupture jusqu'au vertige. J'aurais aimé que tu m'en veuilles et me cherches querelle. Les nuages semblaient des boules de neige. Nuance matinale, 8 juin 2013, 10 heures du matin. Le soleil verdissait les arbres, le ciel invitait à l'espérance, le cœur fourmillait de mille velléités, le soleil rosissait la maison. Était-ce l'heure des grandes décisions? Devais-je me saisir de la vie? Mais la rue était vide de passants, et j'y retrouvais ton insoluble absence. Tourmenté, 8 juin 2013. J'étais amoureuse d'un souvenir. Sans doute n'était-il plus le même. Peut-être son regard aussi avait-il changé. Mais ses gestes, mais sa voix. Je cherchais en ma mémoire l'immuable. Je cherchais quelque chose à aimer toujours. Je souhaitais aimer plus qu'un souvenir. Soleil matinal, 6 juillet 2013. L'arbre était un barbouillage d'or vert. Même près de moi, tu n'aurais pas su mon cœur démuni. Le vent semblait une onde sinueuse et invisible. Ton absence répondait au vide de mon être. Voyais-tu, comme moi en cet instant, ce ciel brillant comme une promesse? Autrefois, nous avions été l'un pour l'autre des amis nocifs. L'arc l'hématite alignait ses étoiles bleues. Pourquoi ne pouvais-je m'empêcher de te voir comme un frère? Sans toi, 8 juillet 2013 à 10h15. Le soleil auréolait les arbres. Sans toi, mon cœur n'avait pas cessé de battre. Le ciel portait un bleu de fleurs des montagnes. Sans toi, il m'arrivait de sourire et de sentir la route plus sûre. La clématite s'affaissait sous le poids de ses propres fleurs. Mais sans toi, la vie semblait plus restreinte. Finies les suprêmes espérances, finies les émerveillements. La maison avait la blondeur délicate d'une coquille d'œuf. Il fallait se contenter d'être soi-même. Septembre 2013, 7h20. L'azur interrogeait la liberté. Il ne restait nulle trace de la récente aurore. Je pensais à toi comme à une lointaine gêne. L'air était autour du corps presque perceptible. Le soleil accusait jusqu'au cœur les reliefs de l'arbre. De tous mes échecs, tu étais le plus assourdissant. Rêver de toi engourdissait le corps. Remords et regrets se mêlaient à ton visage. 13 septembre 2013, 5h. La maison déserte avait une chaude présence. Le cœur était une fatalité. Le silence élargissait l'espace, ralentissait le temps. Je ne savais que faire pour exister. Était-ce l'amour ou l'absence d'amour qui rendait clairvoyant? Seul le hasard pouvait désormais te placer face à moi. La nuit se taisait intensément. Face à toi, je n'aurais pas osé te parler. Peut-être n'y avait-il pas d'utilité à la souffrance. Éveillé, 2 septembre 2013, 5h du matin. Ton absence était un espace pour le rêve. Je n'osais regarder en moi-même. Il aurait fallu profondément ignorer le monde pour connaître le bonheur. Je confondais la nuit et l'ombre portée des choses. On cherchait dans l'amour un au-delà. J'aurais voulu que tu m'inventes un cœur, un souffle. Pourquoi avais-tu pris mon pire masque pour mon vrai visage? Manque, 7 septembre 2013, 6h30. Le désir ne montrait pas la route à suivre. Oisive, désœuvrée, je ne me sentais pas perdu. La solitude me protégeait de tes jugements. Ce n'était pas faute de paroles que je t'avais perdu. fuyais-tu de moi la part véhémente ou la part aimante? L'amour aurait voulu tout éclaircir. Le cœur attendait un dénouement, mais l'esprit n'aspirait qu'au repos. Poussive, 6 septembre 2013, 6 heures. La nuit encombrait la maison. Le bonheur réclamait des certitudes. La nuit, mélangée aux clartés de la lampe, donnait une couleur indéfinissable, proche de celle du sable. Le miroir ouvrait une fenêtre absolument fermée. J'avais besoin de ton regard sur mes travers. Il semblait que toi seul pouvais me rectifier. La nuit absorbait le jardin. J'essayais de t'écrire mon amour, mais je n'y trouvais ni fond ni forme. 2 septembre 2013, 7 heures du matin. L'aube décantait le ciel. Les feuillages connaissaient la vie. Le manque d'amour avait rendu les corps moins souples. À l'Orient brûlait un feu rose et sans chaleur. Le manque d'amour avait rendu le cœur tremblant. Des pans de nuit restaient suspendus au creux des frondaisons. Peut-être l'amour ne servait-il pas seulement à combler des vides. La solitude m'avait rendu transparente. 28 août 2013. La nuit avait englouti la maison. On ne discernait plus le dedans du dehors. On examinait sans ciller les raisons de pleurer. Il serait toujours trop tôt pour s'avouer vaincu. Ton absence savait parfois se faire oublier pour revenir chaque fois coupante et froide. La nuit était d'une fixité inquiétante. J'aurais voulu que tu m'expliques les actes, les paroles impardonnables. Voilà, c'était les écrits la nuit suivie d'écrits d'amour de Marianne Bruck. C'est donc le Polder 163. Je vous rappelle que la collection Polder est une publication des charges gros textes. Son objectif est de faire émerger de nouvelles voix et d'être un tremplin vers des aventures éditoriales plus ambitieuses, nous disent Jacques Morin et Yves Artufel. Vous pouvez donc soutenir la jeune poésie de Marianne Bruck et des autres Polder, bien sûr, en vous abonnant. 4 opuscules par an, c'est 20 euros à l'adresse de Décharge, 4 rue de la Boucherie, 89 240 Aiglonie. C'est à l'ordre de l'association Les Palefreniers du Rêve. Pour avoir tout renseignement, vous pouvez aussi consulter le site www.déchargelarevue.com/polder.htm. Voilà, nous laissons passer un peu de musique. Et nous retrouvons Jean Antonini pour sa chronique mensuelle. C'était une de ces variations Goldberg magnifiées par le grand Glenn Gould. Vous êtes toujours à l'écoute de La Route Inconnue sur Radio Grand Ciel. La Route Inconnue, votre rendez-vous bimensuel avec la poésie vivante, réalisé en partenariat avec la revue Décharge, dont le dernier numéro nous est présenté par son directeur Jacques Morin, alias Jacques Mo.
Revue du mois audio numéro 17, consacrée cette fois à Décharge 164. Ce numéro 164, c'est le plus gros numéro de tous les temps, puisqu'il culmine à 160 pages. La nouveauté du moment, c'est le changement de site à consulter sur www.déchargelarevue.com. Au sommaire, pas moins de 8 noms en tête de gondole. Je n'ai guère le temps qu'il faudrait pour m'attarder sur chacun, alors citons 1. François de Cornière, invité par deux fois dans l'émission, qui donne la dernière partie de son ensemble Nageur du Petit Matin, qui sera édité prochainement au Castor Astral. 2. Jean-Paul Clé, invité également, dont je lirai un texte pour clore cette rubrique. 3. Jean Joubert, tout récent prix Kowalski, qui nous gratifie de quelques inédits. 4. Gérard Bayot, qui suite à son livre « Un printemps difficile » aux éditions de L'Herbe qui tremble, nous gratifie de même de poèmes inédits. 5. Lucien Suel, qui après avoir fréquenté le petit monde de la poésie est entré par la grande porte dans celui de la littérature. 6 et 7, deux poétesses roumaines présentées et traduites par Nicolas Cavaillès, lui-même prix Goncourt de la Nouvelle 2013. Enfin 8, Bernadette Trot, que j'ai publié en polder en 1995 et qui apparaît dans ce numéro quasiment comme une révélation pour beaucoup de lecteurs qui ne la connaissaient pas du tout. Petit soleil furtif, qu'on avale d'un trait. Le vent, qui dans l'ombre s'embusque, glace nos membres. Il reste au bas des murs un liséré de neige, mémoire de l'hiver. Et le printemps hésite à la fenêtre ouverte. Je nommais pas, évidemment, le choix de Décharge avec 12 auteurs, la troisième partie concernant le dossier sur les pseudos en poésie par Claude Verset, les notes de lecture et autres chroniques, 160 pages, c'est pas rien, et donc un poème de Jean-Paul Clé. Bénéfique folie. Salmonelle biseautée, je ne fis pas souvent l'arlequin damasquiné. Ô coriandre, m'as-tu pas vu l'autre soir à la fontaine farfelue? L'épousée viendrait, si tard, disait-on, découpera-t-elle la nuit et nous la colorera en lilas, elle n'aura descendance ni marquisa. Oh, j'ai bonne lubie, ma foi, d'avoir admiré l'ancienne poésie qu'au Vendômois, les châtelains chourineurs ont si souvent favorisée. Ah, diamanteuse courtoisie, ai-je parfois la licorne peignée? Mathusalem ne se défaussera point, son nez protubérant ne se démodorait. Or, ce n'est ni marécagie mauvaise, folie d'avoir, si longues années survécues, et ravie. Voici ce que je vous donnerai la main et l'ombre d'un cœur vaguement morfondu. Donc, ce numéro 164, 160 pages, 8 euros, tout renseignement sur la page d'accueil de l'émission. À bientôt.
Merci Jacques, à dans un mois pour une nouvelle revue des revues. Si vous êtes un fidèle auditeur de La Route Inconnue, et je ne peux pas croire le contraire, vous n'êtes pas sans savoir que nos fidèles chroniqueurs sont aussi et surtout d'impénitents poètes. Et nous ne pouvions que saluer la sortie du dernier recueil de Jean-Claude Touzeil, Des choses qui arrivent, aux éditions Le Chat qui tousse. Alors je lirai tout à l'heure, puisqu'il me l'a permis, quelques extraits de ce très joli bouquin, mais d'abord l'interview de l'auteur. Jean-Claude, bonjour, merci de nous donner un peu de votre temps pour répondre à nos questions. Alors, ce recueil des choses qui arrivent, c'est du Touzeil pur jus, où l'invention drôlatique côtoie parfois la rigueur du procès-verbal, et en disant cela, je pense notamment au poème intitulé « Warning » que je lirai tout à l'heure. Alors, en un peu plus de 30 pages, on passe du rire au sourire et du sourire aux larmes, voire à l'angoisse. Et ça, c'est fortiche. Mister Touzeil, est-ce que c'est une volonté de votre part de nous malmener de la sorte?
Non, c'est certainement que j'ai pas envie de malmener personne, mais j'ai l'impression que la poésie, ça doit refléter la vie. Et la vie, elle est comme ça. C'est pas en continu rose ou en continu noir. Il y a forcément des moments graves et puis des moments moins graves, disons, ou même drôles carrément. Et comme j'ai tendance un petit peu à m'en tirer par l'humour quand je suis embarrassé, ben voilà. Donc il y a forcément toutes ces facettes-là.
Oui. Et dans ce livre, il y a aussi des souvenirs de jeunesse qui ont trait au vélo. C'est une autre de vos passions. Et je voudrais que vous nous parliez de vos rapports amoureux avec la petite reine. Elle vous a fait tutoyer la gloire au moins une fois dans votre vie. Gloire locale, mais tout de même. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça?
Oui, c'est... Bon, c'est... Comme le titre l'indique, ce sont des choses qui arrivent. Et surtout, peut-être quand on est poète ou futur poète. Il se trouve que j'ai participé donc à une course de vélo jeune, hein, et que bon, je n'avais pas de grand talent, mais bon, j'arrivais à suivre à peu près, et puis j'étais pas mauvais au sprint. Voilà, alors donc de temps en temps je levais le nez pour voir, j'avais aperçu des échappées, et puis je m'étais pas rendu compte qu'on avait rattrapé les échappées, bien que j'ai fait le sprint du peloton, pensant gagner le sprint du paquet, mais non, il n'y avait plus personne devant, donc j'ai gagné la course.
C'est une victoire de poète. Alors, il y a un des poèmes du recueil qui s'intitule Charlie. Il y est question de l'ange de la montagne. Alors, il s'agit de Charlie Gaulle, je suppose en tout cas, qui fut vainqueur du Tour en 58 et qui est un des meilleurs grimpeurs de l'histoire du cyclisme. Alors, moi, je me suis posé la question, pourquoi Charlie Gaulle, qui finalement a gagné qu'un tour, et pourquoi pas Anquetil ou d'autres encore? C'est une figure...
Ah, alors là, je ne sais même pas pourquoi. Est-ce qu'on est maître de ces admirations? Je ne sais pas. À cette époque-là, bien sûr, il y avait à peine la télé. Bon, c'était uniquement des rapports dans les journaux le lendemain ou le surlendemain. Et j'avais trouvé ce petit bonhomme-là... très émouvant, quoi, parce qu'il était un peu dans les choux un jour, et puis le lendemain, il était capable de s'échapper et de mettre tout le monde à 20 minutes. Voilà, c'est tout, il n'y a pas d'explication particulière.
C'est quelqu'un qui a... Là, je me suis renseigné juste, je connaissais le cycliste, et je ne savais pas qu'il avait fini sa vie pratiquement comme un ermite dans une forêt des Ardennes. Là, c'est encore un curieux personnage aussi intéressant.
Oui, très bizarre, oui.
Ouais.
Bon, à cette époque-là aussi, les contrôles étaient peut-être moins forts. On ne sait pas trop ce qu'ils prenaient. Hein.
Alors, Jean-Claude, les hommes et les femmes, bien entendu, ont largement leur place dans votre poésie. Des hommes, des femmes de toutes origines que vous avez rencontrés lors de vos voyages, notamment en Afrique. Et alors, ces gens, on les retrouve évidemment dans ce livre, mais on retrouve aussi les animaux, les paysages. Alors, tout ça, c'est évidemment... sont des souvenirs pour toute une vie, mais c'est aussi chez vous une mine de poèmes inépuisable, hein, parce que j'en ai lu beaucoup, évidemment, dans l'anthologie qui vous a été consacrée, Un chèque sans provision, paru chez Clarisse, mais là encore, il y a beaucoup comme ça de souvenirs qui remontent de vos différents séjours en Afrique, notamment. Hein.
Oui, c'est un chèque en blanc, hein, c'est pas un chèque sans provision.
Un chèque en blanc, pardon.
Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Oui, au printemps de Durset, une année, on avait fait une petite anto qui s'intitulait tous les poèmes sont des souvenirs et tous les souvenirs sont des poèmes.
Oui.
Parce qu'en fait, ça participe dans les deux cas à l'intime, à quelque chose qu'on a en nous et puis qui ressort. Bon, parce qu'il y a besoin certainement à un moment de remettre ça en surface, quoi. J'ai cette impression-là.
Mais ce sont des gens qui et des scènes qui continuent de vous inspirer maintenant que vous êtes, j'allais dire, en demeurance à Durset, en Normandie. Vous êtes toujours un peu là-bas, toujours ici.
Ah ben oui, alors là, je crois que nos voyages, on a quand même passé, quand je dis on, ma femme et moi, on a passé quand même 13 ans à l'étranger, à travailler dans l'enseignement, la coopération, et ça nous a beaucoup, beaucoup marqué.
Oui.
Alors, les rencontres en particulier.
Ouais. L'humour, évidemment très présent, comme dans vos précédents recueils, c'est aussi une de vos marques de fabrique. Et parce que parmi ces choses qui arrivent, il y en a de très drôles. J'en lirai quelques-unes tout à l'heure. Mais j'ai quand même parfois l'impression que vous vous dépêchez de rire pour ne pas pleurer. Hein, souvent, votre
Il y a un peu de ça, ouais. Puis c'est peut-être y a plusieurs formules avec l'humour. C'est Félix Leclerc, moi j'aime bien l'humour, cette arme pour le voyage, justement. Ouais.
C'est une défense, en fait, c'est comme une arme de...
Oui, je pense que c'est peut-être une manière de se cacher aussi, hein. Je sais pas.
Ouais. Puis il y a un rire qui grince, je pense notamment dans un tout petit poème que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui s'intitule Illusion. Là encore, je le lirai tout à l'heure, mais là oui. c'est très grinçant. Hein.
Oui. Oui, oui, je sais pas, c'est un trait certainement qui revient dans la plupart de mes poèmes, mais pas tous, parce que bon, l'humour c'est aussi, je sais pas comment dire, on peut dire des choses graves. En riant presque ou en ricanant, enfin, ou par dérision, quoi.
Mmh. Ouais.
Je pense.
Ouais. Alors, vous êtes aussi.
Et puis, les mots qui nous entraînent, des fois, c'est eux qui gagnent, quoi.
Oui, alors ça, justement, oui. Vous êtes vraiment passé, j'allais dire, maître dans l'art de jouer avec les mots, mais c'est vrai que vous. C'est eux, plutôt eux qui vous font entrer dans la danse, finalement, entrer dans la ronde. Hein.
Oui. Vous êtes. Oui, c'est on n'est pas maître totalement de ça.
Ouais.
Un petit peu quand même, mais bon, pas complètement.
Il y a là quelque chose aussi encore qui relève de l'enfance, hein, de l'esprit d'enfance, dans la manière dont vous avez d'agencer les mots, de les faire résonner, de les faire sonner, comme on pourrait secouer un sac de billes.
C'est Cadou qui disait qu'on ne guérit pas de son enfance.
Ouais.
Je pense que c'est juste. Et puis, on vieillit maintenant, enfin je vieillis. Et donc, quand on vieillit, on retourne à l'enfance, on dit, non?
En tout cas, moi, je vous soupçonne de n'avoir jamais vraiment fermé la porte à l'enfance, non?
Ah ben, peut-être,
ouais. Alors, c'est votre deuxième livre, hein, aux éditions du Chat qui tousse.
Oui.
C'est un ami, Franck Côté. Alors, Franck Côté, les auditeurs de Radio Rancière le connaissent, puisqu'on l'avait interviewé au dernier salon de la poésie de la Suze sur Sarthe.
Oui.
C'est quelqu'un avec qui vous aimez travailler. Vous aviez déjà publié un très, très beau livre, « Poirier proche ».
Oui.
Qui a un de vos livres qui ont obtenu pratiquement le plus de succès. Hein. Je crois que c'est un livre qui a été réédité d'ailleurs, non?
Ah bah, c'est la troisième fois qu'il est
réédité.
Donc... ça me touche aussi, moi, que finalement cette espèce de compagnonnage avec ce poirier qui était en face de ma fenêtre puisse me toucher, bon, mais toucher aussi des lecteurs qui n'ont jamais vu le poirier, évidemment. Et quelquefois, c'est des gens qui passent par là et qui demandent à voir où était le poirier, parce que maintenant, il n'est plus là. Ça, je trouve ça très beau.
Ça, c'est formidable, oui. C'est formidable. Donc, c'était un compagnonnage, un long compagnonnage avec Franck Côté. Entre l'auteur et l'éditeur, souvent, dans la poésie, sont des relations qui sont très étroites. Hein.
Oui. Ouais. Oui, surtout nous qui éditons... Qui publions, chez des petits éditeurs, avec des guillemets à petits, bien sûr, mais bon, quand même, quoi. C'est souvent, les éditeurs de ce gabarit sont de grands militants, quoi, de la poésie.
Ouais.
Sinon, ce ne serait pas possible de publier.
Ouais.
Je crois.
Ouais. Jean-Claude, merci beaucoup. Donc je rappelle le titre des choses qui arrivent aux éditions Le Chat qui tousse. On se retrouve, en tout cas on vous retrouve à la fin de l'émission pour écouter votre chronique. En attendant, eh bien je vais lire, chers auditeurs et auditrices, quelques choses qui sont arrivées à Jean-Claude Touzeil.
Merci beaucoup.
Illusion. L'autre jour, à Briouze, au G20, j'ai bien cru voir les grands de ce monde aux rayons fruits et légumes et qui poussaient leurs chariots. Warning. Un homme s'est levé de bon matin. Il a fait sa grande toilette, il a mis son plus beau costume, il a refait son nœud de cravate. Un homme a sorti sa voiture, il a contrôlé les niveaux, il a bouclé sa ceinture, il a roulé très prudemment. Un homme a mis son clignotant, il s'est garé sur le bord de la route, il a allumé ses feux de détresse, il s'est tiré une balle dans la tête. vacances. Quand j'irai en vacances, je t'enverrai, promis, une carte postale d'un pays exotique. Un soleil couchant sur la place Tahrir, une vue nouvelle de la ville d'Alep qu'on vient encore de bombarder, un portrait d'enfant qu'on a déguisé en petit soldat, un air de printemps sur l'île de Djerba, des bocaux à Ram du nord Nigeria, un grand bol d'air de Fukushima, des bateaux surchargés en Méditerranée, une plage de silence et des gros bisous de Lampedusa. Quand vous traverserez la Belgique et que vous verrez écrit sur le bord de la route « Grenailles errantes » au lieu de « Gravillons », vous comprendrez vite que vous êtes arrivé en terre de poésie. Voilà. Tout Jean-Claude Touzeil est dans ces quelques lignes, cette manière de dire bien des choses l'air de rien. Ce sont donc des choses qui arrivent. Jean-Claude Touzeil, publié aux éditions Le Chat qui tousse. Vous pouvez commander ce livre tout simplement en écrivant à notre ami Franck Cottet, éditeur. Les éditions Le Chat qui tousse, 17 rue du Président Kennedy. 44 260 Savenay. 17 rue du Président Kennedy, 44 260 Savenay. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, christophe.jubien@grandciel.fr.
À l'enterrement d'une feuille morte, deux escargots s'en vont. La coquille noire, du crêpe autour des cornes, ils s'en vont dans le soir, un très beau soir d'automne, hélas quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées. Sont très désappointés. Mais voilà le soleil qui leur dit: prenez, prenez la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière si le cœur vous en dit. Prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris. Il partira ce soir, vous verrez du pays.
Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis.
Ça noircit le blanc de l'œil, et puis ça on les dit. Les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, couleurs. Les arbres et les plantes se mettent à chanter à tue-tête, la vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer. C'est un très joli soir, un joli soir d'été. Et les deux escargots s'en retournent chez eux. Ils s'en vont très émus, ils s'en vont très heureux, comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu, mais là.
Deux escargots s'en vont à l'enterrement d'une feuille morte de Jacques Prévert par les frères Jacques. Tout ce que vous avez voulu savoir sur le haïku sans jamais oser le demander, eh bien Jean Antonini dans sa grande mansuétude vous le révèle. Et c'est gratuit, ah, les petits vénards.
L'histoire japonaise du haïku, commence avec Matsuo Basho, dont je vous ai parlé la dernière fois. Puis, cette histoire égrène 3 maîtres classiques. Yosa Taniguchi vit de 1716 à 1783. Le nom de poète qu'il a choisi est Buson, qui signifie « village rustique ». Il étudie la peinture et l'art du haïkai à Edo, la future Tokyo. Il voyage pendant 10 ans, se marie sur le tard, a une fille. Les poèmes de Buson cherchent, plutôt que la description, à rendre l'essence des choses dans la vie quotidienne. Avec le nez qui coule, je joue au go tout seul, nuit froide. Pluie de printemps, comme il fait peine celui qui ne sait écrire. Fleur du théier, blanche ou jaune, difficile à dire. Kobayashi Nobuyuki vit entre 1763 et 1828. Le nom de poète qu'il a choisi, Issa, signifie « tasse de thé ». Fils d'un paysan aisé, Issa aura une existence marquée par le malheur, épouse et enfant décédés, et par la pauvreté. Une partie de sa vie se passe en voyage, l'autre dans son village natal. Ses poèmes sont marqués par le comique, la satire, une compassion étendue à tous les êtres vivants. Ne pleurez pas, insectes, les étoiles, elles aussi, sont transitoires. Être là, tout simplement, au milieu de la neige qui tombe. Escargot, adagio, escalade le mont Fuji. Rien qui m'appartienne, sinon la paix du cœur et la fraîcheur de l'air. Masaoka Tsunenori vit entre 1867 et 1902. Le nom de poète qu'il a choisi, Shiki, signifie « petit coucou ». Fils d'un samouraï, il étudie la littérature à Tokyo. Il fondera la revue Ototogisu. Il est considéré comme le refondateur du haïku moderne. Le mot haïku, qui désigne un poème écrit isolément et non collectivement, a été créé par lui. Il insiste sur l'objectivité du poème qu'il compare à un croquis. Il meurt de la tuberculose à 35 ans. Sous mes sandales en paille, le parfum des herbes des prés. À côté du débarcadère, un petit quartier de maisons closes, les cotonniers en fleurs. Pattes mouillées, le moineau sautille le long de la véranda. Cette année, malade avec les pivoines, convalescent avec les chrysanthèmes. Pas une seule femme japonaise dans cette histoire. Pourtant, Shio Ni est née 9 ans après la mort de Matsuo Basho. Elle est morte en 1775 à 72 ans, devenue moine bouddhiste. Ses poèmes sont sans artifice, sans ornement, naturels. Matin et soir, les gouttes de rosée gonflent les bourgeons. Accroupie, elle observe les nuages, la grenouille. Première neige, ce que j'écris s'efface, ce que j'écris s'efface. Il faudrait encore parler de Ryokan, de Santoka, de Hosai, de Isekiro. Mais au début du XXe siècle, survient un événement qui bouleverse l'histoire du haïku japonais. Le poème est traduit en langues étrangères et va commencer une autre vie en Europe, en Amérique et ailleurs.
Un grand merci à Jean Antonini et à tous ceux qui ont participé à la conception et à la réalisation de cette émission. Je vous laisse avec Jean-Claude Touzaille et ses petites gouttes de poésie mensuelle. Belle fin de journée à toutes et à tous. Restez à notre écoute car les programmes de Radio Grand Ciel se poursuivent. Quant à moi, je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle étape sur la route inconnue.
Alors bonjour, aujourd'hui lecture d'un poème de Boris Vian. Un jour, il y aura autre chose que le jour. Une chose plus franche, que l'on appellera le jodel. Une encore, translucide comme l'arc-en-son, que l'on s'enchâssera dans l'œil d'un geste élégant. Il y aura l'oreille, plus cruelle, le volutin, plus dégagé, le comble, moins sempiternel, le baouf, toujours enneigé. Il y aura le chalamondre, l'ivrunini, le baroïque et tout un planté d'alalogne. Les heures seront différentes, pas pareilles, sans résultat. Inutile de fixer maintenant le détail précis de tout ça. Une certitude subsiste, un jour, il y aura autre chose que le jour. Un deuxième. Si j'étais poète, je serais ivrogne. J'aurais un nez rouge, une grande boîte, où j'empilerais plus de 100 sonnets, où j'empilerais mon œuvre complète. Boris Vian. Et puis je vous ai mis 2-3 apocryphes, comme ceci. La redoute, ça craint, les 3 Suissesses. Les femmes à plumes ne sont pas forcément les plus zélées. Robert Merle. Que n'ai-je été choisi, ô gloire fameuse, pour être l'effigie de notre semeuse? Louise de Villemorin. Voilà pour aujourd'hui.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville, j'ai la fumée des usines pour prison, et mes racines, on les recouvre de grille. Comme un arbre dans la ville, comme un arbre dans la ville, j'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles.